Je vous invite à écouter la lecture de la Bible, les trois textes que nous avons retenus pour ce culte sont centrés sur le thème de la vie. Tout d'abord au psaume 36, les versets 6 à 10. Éternel, ta beauté a les dimensions du ciel. Ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta loyauté va aussi haut que les plus hautes montagnes. Tes décisions sont profondes comme le grand océan. Éternel, tu viens au secours des hommes et des bêtes. Que ta bonté est précieuse aux dieux. Les humains cherchent refuge sous tes ailes. Tu les combles des richesses de ta maison. Tu les fais boire au fleuve de ta bonté. C'est toi qui es la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 7 à 11a, Jésus dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, je suis la porte de l'enclos des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera sa nourriture. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie. Elle est en abondance. Je suis le bon berger. » Enfin, dans la première épître de Jean, le début de cette épître, les versets 1 à 4. Nous vous écrivons au sujet de la parole de vie qui a existé dès le commencement de toutes choses. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Quand cette vie est apparue, nous l'avons vue. C'est pourquoi nous vous en parlons et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Nous vous écrivons ceci, afin que notre joie soit complète. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Je vous invite à chanter le cantique numéro 163, cantique 163, la première, la deuxième et la troisième strophe de ce Veni Créateur. recueillons-nous dans la prière. Éternel, nous aspirons à la sérénité. Nous avons besoin de quitter nos soucis et d'être libérés de nos tensions, de recevoir la paix que tu apportes à nos vies. Éternel, nous venons nous reposer en toi et en ta parole, sainte, crédible, fidèle. Et ta parole apaisera notre soif de vérité, de lumière, de vraie vie. Chers frères et sœurs, chers amis, en ce quatrième dimanche de l'Avent qui précède de quelques jours la fête de Noël, il me semble approprié d'essayer de répondre à cette question qui est bien celle de l'Avent. Pourquoi Jésus est-il venu dans le monde? Pourquoi a-t-il été envoyé? Et même plus précisément, comment lui a-t-il compris cela? A-t-il interprété sa mission? Il y a une réponse à cette interrogation au chapitre 10 de l'Évangile de Jean. Dans ce chapitre, nous entendons Jésus qui entrecroise de manière un peu acrobatique deux images en même temps, puisqu'il nous dit qu'il est à la fois la porte de l'enclos des brebis et le berger de ce même enclos. Et Jésus affirme, après avoir évoqué les loups dévorants, les voleurs assassins, Jésus déclare « Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en abondance. » Verset 10 de ce chapitre 10 de l'Évangile de Jean. À Noël, nous célébrons la vie. Nous le faisons à travers une naissance, à travers un enfant, et cette célébration parcourt tout l'Évangile, jusqu'à la lumière de Pâques, où nous chantons celui qui pour nous et le vivant par excellence. Il y a quelques dimanches, et à deux reprises, les enfants des écoles bibliques de l'oratoire ont dit au pied de cette chaire la prière d'Action de Grâce, chacun à sa manière. Mais chose assez remarquable, ces enfants dont on nous a dit qu'ils n'avaient pas été influencés par les pasteurs, que l'on ne leur avait pas dicté leur prière, chacun, chacune a dit merci pour la vie. À un âge dont on penserait à tort qu'il est celui de l'insouciance, ces enfants, ces pré-adolescents, avec une joyeuse gravité, ont fait preuve d'une conscience exceptionnelle du caractère extraordinaire de la vie et de leur vie. Je pense à autre chose. Il y a plusieurs années de cela, c'était une émission de télévision qui fêtait les 90 ans d'une actrice de théâtre, de cinéma, Danielle Darrieux. Et naturellement, compte tenu de son âge, la question lui fut posée, comment vivait-elle sa vieillesse, le vieillir, les atteintes de l'âge ? Et elle a fait une réponse très généreuse et significative. Elle a dit « Je ne veux pas penser aux maux de mon âge. Je veux penser à toutes celles et à tous ceux qui, fauchés par la mort, auraient tellement voulu atteindre mon âge. » Faisant entendre par là combien la vie est un privilège remarquable. Des jeunes enfants, une femme d'un certain âge, ont fait retentir un chant de reconnaissance qui peut devenir pour nous un hymne au Dieu créateur. Dans le grec classique comme dans le Nouveau Testament, il y a deux mots pour désigner la vie. Et on les traduit tous les deux par « vie ». Ils sont assez souvent synonymes. Il y a le mot « bios » qui désigne la vie des êtres vivants, de leur naissance à leur mort. Et puis, et c'est le mot qui est utilisé dans notre passage, il y a le mot « zoé » qui désigne peut-être plutôt l'existence, notre existence avec des caractéristiques. Et ce mot est souvent suivi en grec, dans l'évangile de Jean, ce n'est pas le cas ici, d'un adjectif qui veut dire éternel, la vie éternelle. Non pas une vie qui n'en finit pas, mais une vie éternelle, c'est une vie en Dieu source de la vie, comme le dit le psaume 36 que nous relisions tout à l'heure. Je veux que les hommes aient la vie et l'aient en abondance. Si on traduisait littéralement ce « en abondance », il faudrait presque dire « surabondamment ». Et là encore, ce n'est pas une question quantitative, une vie qui n'en finit pas, mais une vie d'une certaine qualité. Et Calvin, dans son commentaire de ce texte, dit très justement qu'il s'agit là, en parlant de ce surabondamment, de la plénitude de la vie. « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en plénitude. » Vous vous souvenez probablement de ce passage tragique des évangiles. Jean-Baptiste, en prison, qui va être décapité, et on apporte à la fin du festin sa tête sur un plat pour Hérode et Hérodiade. Eh bien, Jean-Baptiste, avant cette mort horrible, se pose des questions au sujet de Jésus. Il s'interroge et il envoie certains de ses disciples à lui, des émissaires, vers Jésus pour lui poser la question suivante: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus ne répond pas simplement par « Oui, je suis celui qui doit venir ». Il ne répond pas non plus par une démonstration doctrinale. Il dit qu'il est celui qui donne la vie en plénitude et qui la rétablit dans son intégrité, parce qu'il répond ceci: « Allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, la vie est redonnée aux morts, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Oui, dans les évangiles, sans cesse, Jésus redresse, Jésus guérit, Jésus réintègre à la société et à la vie, Jésus donne la vie. Et comme nous le montrent les récits de Pâques, il la donne même à travers sa mort. À travers toute la vie de Jésus, ses paroles, ses actes, il y a un témoignage en faveur de la vie. Je fus appelé il y a une trentaine d'années à organiser un culte pour l'émission télévisée de Présence protestante, et cela avec quelques étudiants de la faculté de théologie protestante de Paris. Et la question se posa, bien entendu: quelle confession de foi allons-nous choisir? Et je fis une suggestion qui fut retenue: les quelques participants de ce culte diraient chacun à leur tour qui est Jésus pour eux. Et je n'oublie pas qu'un étudiant qui a quitté la faculté, qui n'est pas devenu pasteur, a dit une parole magnifique il y a 30 ans de cela. Il a dit: Jésus est un grand oui à la vie. Oui, en Dieu, en Jésus, nous découvrons un élan, l'élan vital, comme dit Bergson, un élan, une énergie pour tout ce qui est vie. En Jésus triomphe, cette fameuse expression de la théologie du process venue des États-Unis, le dynamisme créateur de Dieu. Paul Ricoeur, dans l'un de ses derniers livres, mais quand il l'a écrit, il était gravement malade et il pensait que j'étais le dernier. Et à la dernière ligne, avec une écriture presque illisible, écrit ceci: du fond de la vie, une puissance surgit qui dit que l'être est être contre la mort. Ce dynamisme créateur de Dieu nous habite, nous traverse, traverse toute la création et il est communicatif. Après avoir, dans cette première étape, dit en quelques mots « Jésus est la vie », j'aimerais dans un deuxième moment dire « Nous est la vie », parce qu'il y a un appel qui nous est adressé dans cette déclaration de Jésus: « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en plénitude ». N'y a-t-il pas, pour répondre à cet appel de notre part, une adhésion fondamentale à la vie en plénitude? Vous avez vu que les exemples que donne Jésus sont très concret. Il parle de boiteux, d'aveugles, de sourds, de malades. Il ne parle pas que de la vie éternelle ou d'une vie spirituelle ou de la vie des âmes. Et Noël, d'ailleurs, s'inscrit dans cette vision très concrète de la vie. On commente parfois, le jour de Noël, le prologue de cet évangile de Jean, où il est affirmé précisément dans le sens de cette prise au sérieux d'une incarnation, la parole a été faite chair. Il y a ce combat pour la vie, mais pour toute la vie, pas seulement notre vie personnelle, notre vie spirituelle, mais toute la vie, et la vie sociale, la vie collective. Et vous avez vu que dans cette liste, cette énumération de Jésus adressée à Jean-Baptiste, il conclut en disant, s'inscrivant dans les grandes promesses des prophètes, la parole, assurément, est là qui traverse toute la Bible. Il conclut, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il s'agit là de cette vie sociale, il s'agit là de ce combat pour la justice. Jésus parle de ces loups dévorants et de ces voleurs, assassins, qui viennent, dit-il, pour tuer et détruire. Telle est la société. Et nous sommes toujours en face de ce visage ensanglanté de la terre des hommes, partout. Dans tous les domaines, dans toutes les dimensions où la mort menace, il nous faut faire triompher la vie. C'est cela le combat que nous menons dans les hôpitaux, c'est cela que nous menons contre la faim avec les Restos du cœur, c'est cela que nous essayons de vivre pour soulager la misère. Et puis, il y a les tyrannies politiques. Il y a ces mots sociaux, le chômage, les SDF, nous pensons à l'abbé Pierre, les exclus. On se rappelle qu'au début du XXe siècle, je crois que c'était en 1911, le pasteur Wilfred Monod, qui prêchait ici même, père de Théodore Monod, a créé ce centre social dans le quartier des Halles, la clairière, quelle belle appellation, au milieu des forêts, des obscurités, la clairière, tel est le combat de tous les diaconats. Lutter contre la mort et pour la vie, là où il y a l'exploitation des enfants soldats, et l'écrasement des femmes, parce que toutes les religions, sans exception, dévalorise, minorise les femmes. Il faut lutter pour la vie en plénitude. Oui, les souffrances physiques, oui, les souffrances morales, il faut redonner une vie digne. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en plénitude. Nous ne pouvons pas ne pas penser maintenant à la fameuse devise d'Albert Schweitzer, elle a fait le tour du monde, le respect de la vie. Mais Albert Schweitzer reconnaissait lui-même que cette devise, en tout cas dite en français, a quelque chose d'un peu passif, le respect de la vie, d'insuffisamment mobilisateur. Il faudrait en fait toujours traduire, quand il y a ce respect de la vie dans les textes de Schweitzer par le respect actif de la vie. Il écrit ainsi, Albert Schweitzer, « Dans la mesure où un être humain prend conscience de la valeur de la vie, il entre dans une communion mystérieuse avec Dieu, source de vie infinie. Et il ajoute, la vie n'est pas Dieu lui-même, mais le respect de la vie dans l'amour est une action divine. La valeur de la vie, de toute vie, le respect des personnes humaines, assurément, mais de toute les créatures vivantes pendant beaucoup trop longtemps, la théologie, la philosophie, chrétienne ou non, occidentale plus qu'orientale, a été accaparée par un anthropocentrisme exclusif. Et nous savons aujourd'hui qu'un christianisme social en plénitude est aussi un christianisme écologique. Et puis voici une conclusion qu'on pourrait intituler Noël et Pâques. D'emblée, c'était là les premières remarques de cette prédication, j'ai associé Noël à Pâques. Certes, la croix est au cœur des évangiles. Comme elle est au cœur de nos vies, avec tant de pleurs, de larmes, de souffrances, d'échecs, de désillusions, mais il y a la lumière de Pâques. Dimanche dernier, le pasteur Marc Pernot a consacré sa prédication à ce psaume 130, le De Profundis, qui commence en disant « Ô Éternel, des profondeurs, je crie vers toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être accompagné par toi. » Mais, et cela a été un moment clé de sa prédication, il a montré que ce « des profondeurs » pouvait être interprété de deux manières différentes qui, loin de s'exclure, se complètent. Des profondeurs, c'est-à-dire de l'abîme, du gouffre, quand je touche au désespoir, j'ai besoin de toi. Mais Dieu n'est pas seulement au-delà de ce monde, par-delà les nuées. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Des profondeurs, disait le pasteur Pernot, cela signifie aussi des profondeurs de l'être, des profondeurs de mon existence à moi, parce que Dieu est en nous, comme un abîme peut-être, mais comme un abîme de lumière. Devant toutes les tombes, face à tous nos deuils, nous portons les stigmates de la divinité et de la vie éternelle. Une paroissienne amie me disait la semaine dernière, alors qu'elle est gravement atteinte dans sa santé, « Il ne faut jamais désespérer ». C'était une parole de pasteur que disait cette paroissienne. Je vous ai déjà dit un jour que travaillant sur les manuscrits de Wilfred Monod, qui sont déposés à la Société de l'Histoire du Protestantisme français, rue des Saints-Pères, j'avais trouvé là des registres dans lesquels Wilfred Monod écrivait jour après jour et heure après heure tout ce qu'il faisait dans sa vie de pasteur. On pourrait faire une biographie de Wilfred Monod heure par heure. Et il y avait là la mention, bien sûr, des baptêmes, des bénédictions nuptiales, mais chose assez étonnante, jamais celle de services funèbres. Je cherchais d'autres expressions, enterrement, obsèques, que sais-je, rien. Cela me surprit beaucoup jusqu'au moment où je découvris que chaque fois qu'il avait à célébrer un enterrement, il écrivait simplement « Affirmation de la vie ». Le pasteur Wagner, fondateur de la paroisse voisine et ami du foyer de l'âme, a laissé dans ses papiers avant sa mort, en 1918, deux prières. Dans l'une d'entre elles, il dit ces mots très simples. « Éternel, je t'ai aimé. dans la fleur des champs, dans les étoiles du ciel, dans le monde intérieur, dans tes pauvres enfants, dans toute forme périssable qui traduit une réalité éternelle. Oui, Jésus est venu dans le monde pour que nous ayons la vie et la vie en plénitude. Noël, c'est un hymne à la vie. Noël, c'est un hymne à la joie. Et nous pensons à cet hymne magnifique de la 9e symphonie de Beethoven. Noël, c'est un hymne à la joie de vivre. Amen.